Il est 8h.
Aujourd'hui, les conditions de contamination et de diffusion du virus rendent ces tests quasi inutiles.
Le président de la FCPE, les parents d'élèves, pas du tout convaincus par le protocole anti-Covid de rentrée des classes en primaire et maternelle. Une rentrée d'autant plus scrutée que commerçants et restaurateurs travaillent, eux, sur les modalités de réouverture quand le moment sera venu. Jusqu'à quel point est-on responsable de ces actes? Question complexe au cœur de l'affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier a été jugé irresponsable pénalement. Mais la loi pourrait changer sur ce point. Triple succès français aux Oscars cette nuit. Meilleur scénario, meilleur court-métrage et meilleur son. Un des lauréats, Florian Zeller, sera avec nous dans ce journal. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Sur le plan économique et sanitaire, faut-il vraiment croire à l'horizon de réouverture à la mi-mai? Et sur le front de la lutte contre le terrorisme, quel sursaut après l'attentat islamiste à Rambouillet? Rendez-vous 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour. À quoi pourrait ressembler une reprise pleine et entière des activités en France? Eh bien, on va en avoir une petite idée en regardant ce qui se passe du côté des écoles aujourd'hui. Plus de 6,5 millions d'élèves font leur rentrée pour les primaires et maternelles. Avec un protocole qu'on pourrait tout à fait imaginer et adapter au monde de l'entreprise. On va d'ailleurs en parler dans un instant avec Maud Descamps. Mais d'abord, Virginie Riva, avec vous, on va s'intéresser à cette rentrée scolaire avec un protocole très strict.
Oui, avec le retour à la règle 1 cas égale une classe fermée. Aussi, pour éviter un maximum les contaminations, l'aération est recommandée toutes les heures. Les classes en plein air sont encouragées. Le maillon faible, ce sont les cantines qui restent ouvertes, avec un espacement de 2 mètres désormais exigé entre les élèves. La question en suspens, c'est que faire des enfants lorsque leur enseignant est malade? Auparavant, ils étaient dispatchés dans d'autres classes. L'idée, c'est de l'éviter le plus possible grâce au recrutement. À côté de toutes ces mesures, le gouvernement sur les tests. Dès aujourd'hui, les enseignants et les aides maternelles vont en recevoir 2 par semaine, gratuitement. Ils sont en train d'être acheminés ce matin dans toutes les écoles. Des autotests à réaliser ensuite chez eux et le nombre de tests salivaires réalisés à l'école pour les élèves est censé doubler d'ici à 15 jours.
Virginie Riva et puis les collégiens et lycéens, eux, vont devoir attendre la semaine prochaine pour la rentrée en présentiel.
Et puis on se met aussi à votre place, si vous êtes parent d'élèves. La grande question, c'est est-ce que ce protocole va être efficace? Le président de la FCPE, les parents d'élèves, Rodrigo Arenas, a quelques doutes, notamment sur l'intérêt de procéder à des autotests.
Aujourd'hui, les conditions de contamination et de diffusion du virus rendent ces tests quasi inutiles. D'ailleurs, l'Allemagne, qui est citée en exemple sur ce côté-là, puisqu'elle mettait des autotests en distribution libre dans les supermarchés, revient sur cette stratégie-là, parce que ce n'est pas efficace. Et d'ailleurs, nous suivons, excusez-nous, l'avis de l'Académie de médecine, qui dit que les autotests doivent être faits avec du personnel qualifié pour qu'ils soient à tout le moins efficaces, mais ils ne permettent pas d'avoir le rendu qu'on en attend.
Le président de la FCPE, Rodrigo Arenas, qui était l'invité du 5-7 de Théo Manval ce matin.
Et dans le journal de 9h, tout à l'heure, nous serons en direct d'une école marseillaise avec Stéphane Frangy pour voir concrètement comment se déroule cette rentrée.
Voilà pour l'éducation nationale, mais vous l'aurez compris, les pistes qui sont explorées à l'école pourraient tout à fait servir de base de travail pour la réouverture des commerces, des restaurants. D'ailleurs, les acteurs de ces secteurs rencontrent la ministre du Travail, Elisabeth Borne, aujourd'hui. On fait le point sur les pistes envisagées par le gouvernement avec Maud Descamps.
Une chose est sûre, confie-t-on au ministère du Travail, rien ne bougera avant la mi-mai, rien avant que l'exécutif n'ait confirmé la réouverture des commerces, des restaurants et des lieux culturels. La première mesure d'allègement concernera le télétravail. L'idée est de passer des 4-5 jours de télétravail par semaine actuelle à 3, voire 2. Tout cela se fera progressivement, précise-t-on dans l'entourage d'Elisabeth Borne. Autre mesure d'assouplissement sur la table, les règles de distanciation dans les restaurants d'entreprise. Mi-mai, il sera à nouveau possible de déjeuner avec un ou plusieurs collègues, tout en respectant un certain nombre de gestes barrières. Et enfin, les moments de convivialité, comme les pots de départ, seront à nouveau autorisés. Là encore, ils feront l'objet d'un protocole sanitaire précis. En revanche, pas question de faire le distinguo entre les salariés vaccinés et les autres. Les règles seront les mêmes pour tous. Et l'entourage de la ministre de préciser que ce n'est pas demain qu'on risque d'enlever le masque en entreprise.
Voilà pour les pistes de réouverture, à condition, bien sûr, que la vaccination avance dans le journal de 7h. Anne Le Gall vous donnait d'ailleurs ce chiffre qui interroge. Hein, seulement 36% des 20-40 ans sont prêts à se faire vacciner selon une enquête de l'Institut Pasteur. Plus de 14 millions de personnes ont déjà reçu au moins une injection en France. L'objectif, c'est 20 millions à la mi-mai.
La réouverture des commerces et des restaurants, les perspectives, la vaccination aussi. On va en parler avec l'invité de Sonia Mabrouk. À 8h15, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.
Et nul doute que le ministre aura à cœur de réagir à un tout autre sujet. Sur notre antenne, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a clairement établi un lien entre immigration et terrorisme. Elle réagissait au meurtre de cette fonctionnaire de police à Rambouillet vendredi dernier, meurtre perpétré par un Français de 36 ans, arrivé illégalement de Tunisie en 2009 et régularisé 10 ans plus tard. Écoutez Valérie Pécresse.
Si on veut lutter contre le terrorisme de manière efficace, il faut d'abord cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Ce que je crois, c'est que c'est très déstabilisant, à la fois pour tous ceux qui sont en situation régulière et aussi pour nos forces de l'ordre, de se dire qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui enfreint la loi de la République, puisqu'il est en situation irrégulière, et que ça ne constitue pas un délit.
Donc vous dites clairement que...
Je pense qu'il faut que ça redevienne un délit, et je pense que sur la base de ce délit, il faut prononcer des ordonnances d'expulsion, mais immédiates.
Et puis un hommage à la fonctionnaire de police tuée sera rendu devant tous les commissariats de France aujourd'hui. Et puis le père et deux cousins de l'assaillant sont quant à eux toujours en garde à vue.
Plus de 25 000 personnes ont manifesté hier en France en soutien à Sarah Halimi. Fin 2019, son meurtrier avait été jugé irresponsable pénalement en raison d'une bouffée délirante au moment des faits. Jugement confirmé tout récemment.
Cette affaire, ce meurtre nous interroge et nous pose une question à tous et à toutes. Jusqu'où est-on responsable de ces actes ? Il s'agit d'un débat de société et Marion Dubreuil, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti en est bien conscient. Il s'est d'ailleurs engagé à présenter fin mai un projet de loi pour modifier les conditions dans lesquelles l'irresponsabilité pénale peut être retenue.
Oui, l'enjeu de ce débat, c'est de savoir s'il faut ou non distinguer les différentes causes d'un trouble psychique ou neuropsychique, et notamment quand le suspect a eu un rôle actif avec la prise de stupéfiants, par exemple. C'est le cas de Kobili Traoré, le meurtrier de Sarah Halimi. Le postulat des partisans d'un changement de la loi, c'est de dire qu'un consommateur de stupéfiants recherche une modification de ses perceptions, qu'il est donc conscient, au moins au départ, qu'il peut ainsi perdre ses moyens et altérer son discernement. Aujourd'hui, la loi ne fait pas de distinction entre les différentes origines des troubles mentaux, que ce soit pathologiques, génétiques ou liés à la consommation de drogues ou de médicaments. Pour le garde des Sceaux, il s'agit d'un vide juridique. Éric Dupond-Moretti aimerait pouvoir tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l'abolition de son discernement.
Marion Dubreuil.
Trois étoiles bleues, blancs et rouges dans le ciel d'Hollywood. Trois Français primés aux Oscars cette nuit.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide.
Il faut trouver une autre solution, on ne peut pas continuer comme ça.
Dis pas ça ici.
Je ne quitterai pas mon appartement.
À commencer par l'écrivain Florian Zeller, nouvelle coqueluche des Américains. Il décroche l'Oscar du meilleur scénario pour ce film dont vous entendez un extrait, The Father, le père, qui est tiré d'une de ses pièces. Et il est ce matin avec nous.
Bonjour Florian Zeller.
Oui, bonjour.
Et félicitations pour votre Oscar.
Merci, merci.
The Father, déjà primé à plusieurs reprises au théâtre comme au cinéma, une trentaine de récompenses déjà. Là, ce matin, l'Oscar, ça a une saveur particulière.
Oui, c'est une saveur particulière. C'est en tout cas une grande joie. Et on a commencé la soirée avec l'Oscar du meilleur scénario et on l'a terminé avec l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Et pour moi, c'était une joie très particulière de partager ça avec Anthony Hopkins, parce que j'ai écrit, j'ai pensé, j'ai espéré ce film pour lui, et je ne dissocie pas le désir de faire ce film du désir de le faire avec lui. Et donc là, ce soir, ou plutôt ce matin, de partager ce moment avec lui, c'est quelque chose de... Voilà, une joie immense.
Et on me souffle que vous venez de raccrocher avec Anthony Hopkins. Florian Zeller, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là?
Ben... Il vient de se réveiller et il vient juste de l'apprendre et il était honnêtement d'une très très grande émotion. Enfin et du coup moi-même j'étais traversé d'une très grande émotion. Vous savez, faire un film, c'est partager une aventure très intime et donc on a développé ce lien presque affectueux l'un avec l'autre et voilà qu'il puisse avoir pour ce film. Cette consécration majeure, c'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup.
Florian Zeller, merci beaucoup et félicitations.
Merci, Merci une fois, merci beaucoup.
Florian Zeller, l'un des héros de la nuit, mais également autre primé français, Alice Doyard, co-réalisatrice d'un documentaire sur Colette Marin-Catherine, 93 ans, qui retourne sur les lieux de la mort de son frère, déporté en 43. Et puis Oscar du meilleur son pour Nicolas Becker pour le film Sound of Metal.
Merci beaucoup Simon Rubin, c'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.